not my colors. This is my new generation.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission. Club de la presse, ça fait toujours plaisir d'être avec vous déjà dans cette émission. Club de la presse, vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio, la 93.5, et nous y sommes. L'examen écrit, session normale du baccalauréat deuxième, partie bac 2, bien sûr, de l'année 2025, est entaché de cas de fraude au Togo sur décision alors du Conseil de discipline de l'Office du baccalauréat. Kankan Malik Natsaba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a pris mardi 2 septembre un arrêté pour sanctionner 5 candidats par l'annulation de leur examen. Et en effet, au cours du dit examen, ces 5 ont été surpris en flagrant délit en possession de téléphones portables, de feuilles remplies d'écritures en lien avec les épreuves. Alors que les élèves s'apprêtent à reprendre lundi 15 septembre 2025, le chemin des classes, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annulé l'examen écrit, session normale alors du baccalauréat, deuxième partie, bac 2 de l'année 2025, de 5 candidats. En plus de l'annulation de son examen, l'un des candidats est suspendu d'année scolaire 2025-2026 et ne pourra s'inscrire pour l'année scolaire 2026-2027, et nous rapporte bien sûr le site d'information Gapola. Et le sujet nous intéresse au Club de la presse. Nous allons l'aborder, bien sûr, dans cette émission. Et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission. Club de la presse de ce lundi 8 septembre 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Atakpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapan. Vous le savez très bien que vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et l'équipe de lundi est déjà en place. Jacques Diakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer nos compatriotes, ceux qui sont dans la diaspora, et ceux qui sont en train également de nous écouter. Peut-être que certains sont souffrants. Je voudrais passer par ce canal pour leur souhaiter une prompte guérison. Aux parents qui sont en train d'arracher actuellement leurs cheveux par rapport à la rentrée scolaire, que la Providence vraiment veille sur chacun et chacune de ses parents. C'est pas vraiment facile, mais le plus important, Pascal, il est souvent dit que on peut marcher seul, mais on ne va pas seul. C'est-à-dire que vous pouvez marcher seul, mais il y a toujours quelqu'un qui est à côté de vous, qui est Dieu, sûrement qui sera mettre des gens sur votre chemin pour pouvoir vous aider. Par rapport à cette situation, je sais que c'est un peu difficile, mais que Dieu aide chacun, chacune d'entre nous à pouvoir faire une bonne rentrée à nos enfants, parents que nous sommes. C'est vrai que c'est lundi, et je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne chance à nos élèves, dire également un grand merci aux enseignants qui ont su prendre nos enfants par rapport à l'année passée. et que Dieu puisse les aider encore à continuer l'année qui va commencer dès lundi pour cette rentrée scolaire. Et inviter une fois encore notre jeunesse, Pascal, parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister ces temps-ci sur les réseaux sociaux, avec l'exhibition de la nudité des uns et des autres, il faut reconnaître que ça, c'est pas du tout bien. Et devant même le Créateur, vous savez que c'est des choses qu'il n'accepte pas. Parce que, Pascal, vous savez, je ne vais pas rentrer trop dans les citations bibliques. Nous sommes sur une radio laïque. Mais il faut reconnaître que quand Dieu avait visité, je passe le couvert du pasteur Didier, quand Dieu avait visité Adam et Ève dans le jardin, vous savez, c'est en ce moment, quand ils avaient péché, c'est en ce moment qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et vous avez vu, ils sont allés chercher les feuilles pour se couvrir. C'est pour vous dire que la nudité n'est pas donnée à n'importe qui. C'est-à-dire que c'est un truc précieux.
Et c'est sacré.
C'est très sacré, Pascal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exhiber votre nudité comme ça. Ce n'est pas du tout bien devant le Créateur. Donc je voudrais inviter nos filles, nos sœurs, nos enfants et à savoir faire, à ne pas s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que Pascal, si vous vous exposez déjà sur les réseaux sociaux, tout le monde voit ce qui est en vous. Quel homme accepterait encore venir vous prendre comme femme? Parce que ce qui est caché, tout le monde a vu. Donc, plaise à Dieu.
Et vous n'avez plus rien à proposer.
Justement, que nos sœurs prennent conscience par rapport à ce qui se passe, et également les frères qui s'adonnent à ces choses. Et d'ailleurs que quand vous sortez avec une fille, vous avez les portables allumés, que vous êtes en train de filmer ce genre de choses, vraiment, vous risquez de tomber également sous le coup de la loi. Donc, et plaise à Dieu, nos filles, reprenez conscience et vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Vous êtes sur un chemin périlleux qui ne pourra pas vous conduire à fonder un foyer vraiment solide devant vous et devant vos parents, parce que c'est honteux qu'un parent puisse assister à voir ses enfants nus comme ça sur les réseaux sociaux où le monde entier voit ce genre de choses. Plaise à Dieu, je demande une fois encore à nos sœurs, à nos frères, s'il vous plaît, la nudité est sacrée. Il ne faut pas toujours s'exposer sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Jacques pour ce message. Je pense que le message est passé. Didier Assogba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, je vais bien.
Dieu merci. Gosson Kitomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Pas trop bien, pas vraiment.
Et qu'est-ce qui se passe?
Je me demande comment tu fais chaque fois pour te sentir heureux. Quand
il n'a pas le choix.
Effectivement, je n'ai pas le choix.
À des milliers de kilomètres de nous, il y a un désastre qui se produit. Et avant d'y arriver, je veux envoyer un coucou fraternel à mes deux clubs de cœur, Covid FC et Diman FC. L'un est à Davier, l'autre est à Ségbé.
Covid FC, hein?
Covid FC, c'était au temps de Covid qu'on avait enfin les règles pour créer ce club. Donc, on a choisi de donner ce club.
Ça, c'est une confession.
Ben oui, et ça va demeurer pour toujours.
Ah, mais ça veut dire que si Covid n'existait pas, le club
n'allait pas exister. Parce que c'était au camp du confinement. Mm. Au temps du confinement. Donc, on avait choisi un lieu reculé, loin du regard des policiers et soldats pour taper dans le foot. Et depuis, à ce jour, le club n'a pas de statut ni de règlement intérieur, mais il a... Excuse-moi, un président à vie, un capitaine à vie et un trésorier à vie.
Ah, mais là...
Bon, passé le temps de la blague, je ne suis pas arabe, encore moins musulman. Mais apprendre au 21e siècle que ce n'est même pas une guerre qu'on tue des enfants. On en a comptabilisé près de 20 000. Qu'on assassine des confrères journalistes. On en a comptabilisé plus de 192 journalistes tués à Gaza. Pour quelle cause, je ne sais pas. Il y a de quoi se joindre à ce mouvement qui voudrait qu'on libère la Palestine. Free Palestine. Je ne suis pas du tout fier. Parce que même à l'intérieur d'Israël, cette entité... Des voix s'élèvent pour dire stop, ça suffit, c'est trop, c'est inhumain, ce n'est plus acceptable. Je ne sais pas comment le monde va s'y prendre, mais on doit arrêter cela et traduire ceux qui en sont coupables devant des instances internationales, même si ceux-là ne reconnaissent pas ces instances, parce que je suis indigné. Des enfants, j'ai vu des images, j'en ai même mis sur mon profil, mais quand tu disais que nous parlons aussi de l'actualité dans le monde entier, c'est l'occasion. Gaza, je ne connais pas très bien son emplacement, mais ce n'est pas pour une raison. Nous sommes tous membres d'une communauté, la Terre. Et si ailleurs, j'apprends qu'il y a des enfants que moi j'aime tellement, qui se font massacrer pour on ne sait quelle cause, il y a de quoi dire non, même au risque de sa vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est plus normal.
Ce n'est plus normal. Et c'est vrai, Gosson, une fois n'est pas coutume. Justement, on va démarrer cette émission avec ce sujet quand même qui effraie l'actualité depuis un temps. C'est vrai, Jacques, on suit justement cette actualité depuis un temps où entre l'Israël et la Palestine, ça crépite, les armes crépitent alors de l'autre côté. Et c'est des enfants qui en sont victimes. C'est vrai, il y a les adultes, mais ce qui est sûr, on retrouve encore plus alors des enfants. Mais ça, c'est tout se passe aux yeux, au nez ou à la barbe alors de l'ONU. On se demande, est-ce que l'ONU n'a plus alors autorité à mettre fin justement à cette guerre?
Vous voyez, Pascal, c'est un peu compliqué. C'est là que vous allez comprendre également la suprématie de certains. C'est-à-dire que certains pensent qu'ils sont plus puissants que les autres. Donc, et quand c'est comme ça, c'est un peu difficile, un peu compliqué de régler les problèmes. Tout ce qui se passe actuellement sur la bande de Gaza, personne ne dira qu'il ne voit pas, il ne sait pas ce qui se passe. Mais comment faire pour arrêter cette barbarie? C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que ça serait difficile. Parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Et vous savez, quand vous prenez l'Europe, vous prenez l'Amérique et puis les autres, c'est un terrain d'expérimentation. Et parce que les armes transitent où? Entre-temps, on a pris des sanctions, mais le constat, c'est que ces armes-là continuent toujours pas à circuler. Vous avez parlé de l'ONU. L'ONU a quelle force devant les États-Unis? C'est ça le problème. Vous savez que depuis que Trump est revenu encore au pouvoir, les choses encore se sont corsées sur le plan international. Moi, je crois que le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est toujours de plaider pour que cette guerre-là puisse s'arrêter. Parce que ce qui décède là-bas, ce n'est pas les hauts-perchés, c'est les enfants, c'est les pauvres, c'est les paysans qui meurent là-bas. Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui que, c'est vrai qu'il y a des coalitions de temps en temps, les rencontres qui ont eu lieu entre l'Arabie Saoudite, entre les Américains, entre les Français et autres. Mais jusque-là, on ne voit pas une grande solution. Et autre aspect, vous savez, Pascal, quand vous rentrez dans une guerre de religion, souvent, c'est souvent compliqué, très compliqué de pouvoir trouver une solution quand il s'agit de la guerre de religion. Vous voyez les massacres également qui ont lieu actuellement au Nigeria avec la secte Boko Haram. Ça également, c'est une guerre de religion. Donc c'est un peu difficile. Aujourd'hui, vous prenez le Burkina, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger. Tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui, quand on parle des terroristes, c'est une guerre de religion. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui que ceux qui financent et ceux qui sont derrière, par exemple, ces gens d'actes, ça a eu de pouvoir discuter. Parce que quand vous prenez le cas du Soudan, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Soudan, vous n'allez pas comprendre. Voilà deux généraux qui se combattent. Vous vous posez des questions. Qui livre les armes à qui? Vous posez des questions. Mais tout le temps, il y a les massacres. Les deux généraux sont là. Ils ne s'entendent pas. Donc, c'est une hypocrisie, au fait, des puissances. Donc, le jour où les puissances vont comprendre, comme on l'a toujours évoqué également ici, entre la guerre qui se passe au nord de la route du Congo, si les puissances là arrivent à s'entendre et à partager le butin, vous allez voir que la guerre va cesser. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Soudan, c'est également le pétrole. Donc aujourd'hui, je crois que tous les pays qui ont, par malheur, ont des biens, surtout les biens du sous-sol, ont toujours ce malheur de vivre les guerres. Moi, je crois que aujourd'hui, avec ce qui se passe entre la bande de Gaza et Israël, c'est vrai qu'Israël vous dira qu'il y a une provocation. Ils sont en train de pouvoir régler cette provocation, mais quand même, c'est trop. La provocation a trop duré. Donc, plaise à Dieu que les puissances dont on a cité tout à l'heure, si les puissances arrivent à s'entendre, je crois que la paix va revenir.
Didier, est-ce que justement on pourra avoir justement cette impression que du jour au lendemain, ces puissances pourront s'attendre, puisque c'est des intérêts qui sont en jeu, et au-delà même d'ailleurs de ces intérêts, chacun tire le drap de son côté.
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on analyse la situation, le conflit entre Israël et le Hamas. Je ne veux pas dire Palestine ou Gaza, je parle plutôt du Hamas, l'entité qui gère la bande de Gaza et qui a été à l'origine de ce que tu as appelé provocation et qui a abouti justement à ce que nous voyons depuis ces derniers mois. Je crois que cette histoire a commencé il y a bientôt 2 ans, octobre 2023, je crois. Donc ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Gosson a bien planté le décor dès le départ. Il a dit qu'il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, mais en tant qu'humain, il s'est senti concerné. Mais des musulmans, ont d'autres raisons aussi par rapport à ce qui se passe là-bas. Tu m'as demandé si les gens pourraient s'entendre.
S'entendre, c'est pour ça, justement.
Qu'il y a beaucoup de paramètres. Et le premier paramètre à prendre en compte est justement lié à la religion. Il y a des entités musulmanes qui ne veulent pas voir Israël exister dans la zone. Et ça, ce n'est pas caché. Vous avez vu les hostilités de l'Iran il y a un temps et tout ça, du Hezbollah et tout ce qu'il avait suivi. Dans cette zone-là, vous avez Israël qui est seul contre tous. Et donc, qui fait la guerre de survie finalement? Vous voyez? Donc, il y a cette entité-là, ce paramètre-là de religiosité à prendre en compte entre un bloc musulman contre le bloc d'Israël, si c'était même un bloc, si c'est contre Israël seul. En plus de cela, vous allez vous poser la question...
Mais est-ce que dans l'ombre, Israël n'a pas de support?
Non, j'arrive. Donc c'est pour ça que après cela, vous voyez maintenant que puisqu'il y a le bloc musulman qui est contre Israël, vous avez... un peu la France, mais beaucoup plus les États-Unis et d'autres, la Grande-Bretagne et tout ce qu'il y a comme l'Occident qui est derrière Israël. Israël, on ne va pas dire qu'on fournit les armes à l'Israël, parce que l'Israël fabrique ses armes chez lui. Et là où on peut se demander qui fournit les armes, c'est peut-être de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas véritablement un État, il n'y a pas véritablement un État assez reconnu en tant que tel. Et les discussions étaient en cours pour la solution à 2 États. Je crois même qu'il y avait eu des avancées jusqu'à ce qu'il y ait eu cette descente-là qui a causé les morts-là et que la guerre ne dégénère. Donc, qui n'avait pas intérêt à ce qu'on arrive à la solution à 2 États? Voilà la question que moi, je me suis posée. Quand les discussions avaient été vraiment avancées, à un moment donné, au point où les Netanyahou, qui étaient les plus durs en Israël, qui ne voulaient pas en entendre parler.
Les conservateurs.
Voilà. Et avaient commencé par lâcher du lest, avaient commencé par accepter qu'on pouvait aller à cette solution-là, à 2 États, qui avaient intérêt à ce que ça capote et qui avaient monté le Hamas à pouvoir faire cette provocation-là, qui a retardé, par exemple, les discussions de 2 ans et qui a permis aujourd'hui à ce que cette guerre-là s'enlise dans la zone. Et qu'il y ait autant de morts, autant d'enfants morts, autant de journalistes morts, on pourra compter autant de femmes, autant d'hommes qui sont morts sur ces dernières années, ces 2 dernières années.
Sans oublier aussi la famine qui règne alors dans la bande.
Mais bien entendu, on parle de la guerre, il y a tous les mots qui s'en suivent. Quand on parle de la guerre, les âmes crépitent, il y a tous les mots qui s'en suivent. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que si on veut régler le problème qui se passe entre Israël et le Hamas, il vaut mieux que des gens posent clairement le débat. entre cette histoire de cette religiosité de la guerre là, qu'on la règle d'abord, et puis qu'on parle aux puissances, y compris aux puissances de la zone, au Qatar, aux Arabie Saoudite, au Iran, qui ne veulent pas sentir même Israël, qu'on leur parle, et que une fois qu'on aura accepté que des gens peuvent cohabiter, des gens peuvent coexister, on pourra parvenir à la solution à deux États. Je pense que c'est cette solution-là qui pourra régler définitivement la guerre israélo-palestinienne, comme on a l'habitude de l'appeler dans l'histoire et tout ça, de la dénommer. Une solution à deux États peut permettre rapidement de résoudre. Mais tant qu'on ne parviendra pas à cette solution et que l'État de la Palestine soit véritablement reconnu dans cette zone et que Israël soit également reconnu en tant qu'entité pouvant exister dans la zone, et que des gens n'agitent pas les ressentiments du passé aussi, que les gens là n'ont rien à foutre là, et tout ça. Et nous sommes, comme Jacques l'a dit, et comme Gonson le disait, nous sommes tous citoyens de la terre. Il faut que quelqu'un vive forcément quelque part. Quels que soient les ressentiments, les histoires passées que des gens ressassent pour alimenter la haine contre Israël, qu'elle ne devrait pas exister là. Je pense fondamentalement qu'on aurait pu discuter entre les entités, les puissances musulmanes et les puissances occidentales peuvent discuter pour qu'on s'entende. On trouve un modus vivendi qui permet justement à ce que la Palestine existe et Israël également existe. Maintenant, après, le côté, il y a des côtés spirituels de cette guerre. On ne pourra pas finalement les analyser ici parce que les gens ne se mettraient pas d'accord. Il y a un côté spirituel de cette guerre-là aussi. Pourquoi elle
tout ça ne date pas d'aujourd'hui.
Non, pourquoi elle ne finit jamais Pourquoi est-ce que, c'est pour ça que je dis, pourquoi est-ce que lorsqu'on discute, on s'approche d'une solution qui pourrait mettre fin, enfin, de façon humaine à cette histoire-là, il y a forcément un élément qui vient provoquer pour que la solution n'arrive jamais. Pourquoi ? C'est voilà la question que nous devons nous poser. Pourquoi est-ce que les discussions avaient été tellement avancées pour parvenir à une solution à deux États ? Et patatras, c'est le Hamas, un peu comme pour renverser le bol du riz par terre, vient faire cette provocation-là. Et depuis 2 ans, on est en train de dire, Israël est en train de dire, je vais trouver les responsables du Hamas pour les tuer. Et quand on ne trouve pas les responsables du Hamas, on bombarde leur position. C'est les victimes, c'est les innocents, les enfants et les autres qui en pâtissent. Et donc, pourquoi est-ce que à chaque fois on s'approche d'une solution pour cette situation dans la zone, il y a forcément un élément qui vient, qui retarde de 2 ans, de 5 ans les discussions, et après on va reprendre les discussions et vous allez voir qu'un autre élément viendra gâcher encore les discussions et puis les morts vont continuer.
D'accord.
Donc, il y a ce côté-là spirituel de ce problème-là aussi que bon, les gens pourront analyser à leur façon. Chacun a son angle d'analyse. Voilà ce que moi je pense de cette situation. Mais si des gens veulent trouver une solution humaine, je crois fondamentalement qu'il vaut mieux qu'on pose clairement le débat de la religiosité de la guerre d'abord. Une fois qu'on se mettra d'accord sur les musulmans peuvent cohabiter avec les juifs, après on va parler avec les partenaires qui soutiennent l'une ou l'autre partie. Les occidentaux contre les puissances, l'Iran et tout ça, qui fournissent les armes qui arment le Hamas et le Hezbollah contre Israël. Une fois qu'on finira de parler et de s'entendre avec les partenaires aussi, je crois que si le côté religieux est réglé et c'est le côté des partenaires qui fournissent également les appuis et les soutiens à l'international est réglé également, les gens se mettent d'accord, on pourra rapidement trouver la solution à deux États pour que les gens puissent coexister et cohabiter.
Oui, Gosson, est-ce que vous arrivez à comprendre, c'est-à-dire, c'est vrai, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, et quand on fouille bien sûr dans l'histoire, dès la création même d'ailleurs de ces deux États, on comprend que la création même a été problématique, quand on parle alors de l'Israël et aussi alors de la Palestine, ça a été toujours problématique, mais on comprend que c'est une guerre et politico-religieuse par rapport même d'ailleurs à ces interventions données tout de suite ou ces éléments donnés tout de suite par Didier et Jacques. Mais finalement, est-ce que nous ne dirons pas que nous sommes victimes alors de la politique et de la religion sur la terre?
Au risque de déplaire, Israël fait tout pour faire croire que c'est une guerre de religion. Je pèse très bien mes mots. Si c'était vraiment ça, et que elle a osé s'attaquer à un autre voisin iranien, elle devrait remercier le ciel que les États-Unis existent. Autrement, aujourd'hui, je doute qu'on parle encore de l'État d'Israël. Je sais ce que je dis. Je ne suis pas là ce matin pour parler géopolitique. Non. Didier parlait de deux États. Retenez que Israël ne voudra jamais, en ce sens que la bordure de la bande de Gaza, ça ouvre sur une mer ou un océan, je ne sais plus. Et chaque année, on doit verser des royalties à Gaza. Israël fait tout pour s'accaparer, pour accaparer cette partie-là. Donc, si on doit y avoir deux États, donc ce bénéfice va lui échapper à jamais. Moi, ce qui m'intéresse ce matin-là, Pascal, ce n'est pas humain que des enfants. D'abord, qu'on utilise la faim comme arme de guerre, c'est interdit par les conventions. Même à ton ennemi, tu ne peux pas l'affamer. C'est interdit. Maintenant que des enfants, munis de bol, fassent la queue pour prendre pour de quoi survivre et qu'on tire sur eux. C'est ça qui m'interpelle, parce que je ne veux pas être long sur le sujet.
Non, mais je comprends. Je comprends même d'ailleurs l'émotion. Parce que c'est. On parle alors des humains, bien sûr, et notamment des enfants. Et Jacques, c'est un sujet, bien sûr, sensible.
Bien sûr. Vous savez, Pascal, c'est un peu difficile de parler souvent d'Israël et la Palestine. De quoi ne pas raviver encore des tensions. Comme je l'ai dit, certains ne sont pas d'accord qu'on parle d'une guerre de religion. Je suis sur une plateforme avec certains amis qui ne sont pas d'accord qu'on parle de cette guerre de religion. Mais on ne peut pas dissocier aujourd'hui ce qui se passe en Israël sans parler de cette guerre de religion. J'ai dit, on ne va pas mener un débat biblique ici, sinon on ne peut pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir sur ce débat, mais comme on l'a dit, ce qui se passe par rapport au traitement réservé aux enfants et le blocus fait aux Palestiniens, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut effectivement trouver une solution. Comment faire pour lever ce blocus, pour que les Palestiniens vivent en paix et qu'ils ne soient pas tout le temps obligés de se bunkériser par rapport aux bombes lancées de gauche à droite, et que nos confrères journalistes soient également tués. Moi, je crois que c'est à cette solution-là qu'il faut venir. Parce que si on veut rentrer à fond, Pascal, sur ce débat entre Israël et la Palestine, il a fait cas tout à l'heure de l'Iran, qui avait également attaqué entre-temps Israël, comme je l'ai dit.
Non, rectifié. Oui, c'est Israël qui s'en est pris à l'Iran.
Bon, de toute façon, c'est les deux.
c'est les deux,
parce que les deux se sont attaqués. Donc, comme je l'ai dit, Pascal, c'est un peu compliqué. Si on était sur un plateau entre peut-être religieux, on pourra
mener le débat sur le plan religieux.
Pour qu'on ne se retrouve pas que quelqu'un dise que telle a raison, telle a tort. Mais comme je l'ai dit, le plus important, comment faire pour lever ce blocus, pour aider aux enfants palestiniens de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir se soigner. C'est ça le plus important. Et inviter, c'est-à-dire que les puissances qui sont là en train de tirer le drap chacun vers de son côté, comment faire effectivement pour régler vraiment ce problème.
D'accord. On va revenir alors chez nous au Togo pour parler alors de ce sujet dont je parlais en début d'émission, c'est-à-dire dans mes mots introductifs par rapport à 5 candidats qui ont été au baccalauréat 2025 et finalement ils ont vu leur baccalauréat annulé et c'est un décret, un arrêté alors du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui a été pris même d'ailleurs le mardi dernier pour sanctionner ces candidats. Et en fait, au cours alors du dit examen, ces 5 ont été surpris en flagrant délit en possession alors de téléphones portables, de feuilles remplies d'écritures en lien avec les épreuves. Comment vous analysez justement cette sanction de la part alors du ministère?
Non, c'est une sanction disciplinaire, ma foi.
Tout à fait.
Disciplinaire. Et donc, nous tous, nous avons fait l'école togolaise. Et on sait que sur un certain nombre de choses, le Togo badine pas. et le sérieux aussi de l'éducation que nous avons reçue dans l'école togolaise explique, te permettra de comprendre pourquoi il y a une sanction aussi sévère contre les jeunes qui essayaient de tricher à l'examen du bac. Et donc, on ne peut pas trouver tellement d'éléments pour disculper nos frères et sœurs qui ont été sanctionnés s'ils ont triché. Ils ont été arrêtés, et je crois qu'ils ont eu le temps de s'expliquer, et ils ont été sanctionnés. Ils en prendront, ils reviendront l'année prochaine ou cette année justement pour soumettre encore leur candidature. Mais il faut justement que cette sanction-là rappelle à notre jeunesse, à nos frères et sœurs, que on peut pas trouver le chemin du raccourci pour arriver à un certain nombre de choses. Il vaut mieux que lorsque l'année scolaire va commencer, et ça commence dans 8 jours, il vaut mieux commencer par préparer l'examen en même temps, plutôt que d'attendre, prendre le téléphone pour aller à l'examen, pour aller compter sur ChatGPT, aller compter sur la tricherie, les feuilles et tout ça. Et si ceux qui ont eu la chance peut-être, je suis sûr que ce n'est pas seulement eux qui ont triché, ceux qui ont la chance et ils n'ont pas été arrêtés, la main dans le sac, ils ont tiré leur épingle du jeu, heureusement ou malheureusement, c'est selon. Mais eux, ils ont été arrêtés, il paraît que quelqu'un ou deux même parmi eux ont essayé de brutaliser les surveillants. Et donc, ça a été une sanction plus sévère. Donc, je sais que c'est un sujet assez difficile. On avait pensé que s'ils ont triché dans une matière, on aurait pu seulement annuler cette matière pour eux afin qu'on puisse comptabiliser le reste des points pour eux, pour que s'ils ont la chance, ceux qui auraient eu assez de chance puissent valider leur examen. Mais il se trouve que les règlements du bac, d'après les informations que nous avions eues, que les règlements du bac sont assez stricts sur le sujet, qu'on annule la participation. Donc je crois que si c'est les règles que le Togo s'est donné en matière d'organisation du bac qui ont été appliquées à ce sujet-là, je vais dire bon courage aux familles de ces frères et sœurs-là, et que bonne chance à eux pour l'année qui vient là.
D'accord. Oui, Gosson, c'est vrai que ça a fait tellement de débats, hein, de polémiques sur la toile, et ça a animé le débat sur justement les plateformes, et beaucoup de gens se disaient, mais écoutez, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on sanctionne plutôt la matière dans laquelle les jeunes ou les élèves ont eu à tricher, et que de sanctionner tout l'examen ou la participation à cet examen?
Tu sais, Pascal, si ma fille, j'apprenais qu'elle a cherché à tricher à un examen, il faut qu'on la radie.
Mais ça, c'est encore très sévère, là.
J'assume ce que je te dis. Mais, par rapport au temps, nous, avant de sortir cet arrêté, je veux comprendre par là que les concernés ont réussi alors. Si tel est le cas, je serai président de la République et je dois sauter le ministre. Je dois le sauter.
Et pourquoi?
Depuis quand les amers étaient... C'est terminé. Pourquoi avoir proclamé des résultats tout en sachant qu'il y a de ces gars-là qui ont commis des actes et vous avez laissé faire. Maintenant, ils apprennent qu'ils ont réussi. Par un coup de tête, on sort ce dossier pour les recaler. C'est sinon criminel, du moins indigne d'un ministre. Je le dis, ce n'est pas possible, Pascal. Ils ont triché, ils ont gaffé. Je suis d'accord. Sanctionné, je suis encore d'accord.
Mais
qu'on aille jusqu'à la proclamation des résultats, Pascal. Le conseil de discipline faisait quoi? Il était en hibernation ou alors il était en mission?
Mais est-ce que ce n'est pas tout un processus?
C'est quoi? Tu me dis pas processus. Des enfants suppliés en flagrant délit de tricherie avec des téléphones portables. On a besoin de combien de temps pour prendre des sanctions? Pascal, vous proclamez les résultats, ils se sont réjouis après vous. Vous les appelez. Moi, je ne serais pas surpris si les parents d'un de ces enfants a vraiment les moyens de porter plainte contre cette pratique-là. Ce n'est pas normal, Pascal. Conviens avec moi que c'est une chose est de tricher. Qu'on te sanctionne, c'est toi qui l'auras cherché. Mais qu'on se taise jusqu'à la proclamation des résultats, ça, on donne l'impression qu'on a passé par perte et profit l'acte posé par l'enfant. Et par un coup de tête magique, on sort un arrêté. Au nom de quelle logique? Ils étaient où? C'est pas que c'est hier que les enfants ont commencé à composer et le lendemain, on a proclamé les résultats. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ils ont disposé de temps. Ils étaient où, Pascal? Dis-moi.
Ça va. Oui, Jacques, ce que le Gosson évoque, c'est par rapport au timing, hein, au temps, justement. Selon lui, justement, ça a tellement duré, puisqu'on a proclamé les résultats, il y a de cela même d'ailleurs quelques mois, et aujourd'hui, on sort cet arrêté pour nous dire que, mais écoutez, les élèves ont triché, et donc, l'annulation même d'ailleurs de leur participation à cet examen a été effective.
Je voudrais d'abord demander à mon confrère Godson de se calmer, de calmer également ses nerfs. Avec son âge, il n'a pas besoin de pouvoir se pourmenter comme ça pour pouvoir parler. Il sait que ça fait mal en tant que parent, mais il n'a qu'à garder ses nerfs tranquilles pour le bonheur de sa petite fille qu'il adore beaucoup. Je ne veux pas le voir tomber malade. Donc il n'a qu'à se calmer par rapport à des situations.
Je pense que le message est passé.
Voilà, c'est ce que je voulais lui dire ce matin. Vous savez, Pascal, moi je voudrais placer ce problème-là sur deux paliers. Le premier palier, c'est au niveau d'abord des enfants. Il a très bien dit que si c'était son enfant, il ne serait pas d'accord. Ça, il faut le reconnaître, Pascal. On n'envoie pas nos enfants à l'école pour pouvoir tricher. C'est comme un parent qui dépose tout le temps son enfant à l'école et qu'on appelle ce parent que vous avez déposé votre enfant, mais au finish, l'enfant n'est pas rentré en classe. Vous, en tant que parent, vous venez, vous constatez effectivement que l'enfant n'est pas en classe. Parce que ça fait mal. Ça fait très mal en tant que parent de voir votre enfant se comporter comme ça. C'est indigne, peut-être, de votre personnalité ou bien de votre personne. Ça, c'est le premier palier. Ça, c'est la responsabilité d'abord qu'il faut incomber aux parents. L'autre aspect, c'est au niveau effectivement des surveillants. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans la salle et qui surveillaient par exemple ces enfants. Comme on l'a dit, c'est un examen, Pascal. Je ne pense pas qu'on puisse par exemple, lorsqu'on a arrêté ces enfants en flagrant délit, en train de tricher, qu'on leur dise « bon, vous ne composez plus ». Parce que c'est une règle disciplinaire qui est là. Parce que quand vous voyez par exemple l'organisation par exemple du bac, c'est plusieurs étapes. C'est à plusieurs étapes, plusieurs niveaux qu'il faut qu'on organise souvent le bac. Et c'est effectivement, c'est la mort dans l'âme souvent que peut-être les autorités, les responsables prennent ces genre de décision. Je ne pense pas qu'un ministre, je ne pense pas qu'un directeur de l'office du bac soit content, par exemple, de prendre ces genre de décision. Je ne vois pas qu'un ministre, un directeur de l'office du bac soit content que on puisse effectivement exclure un enfant définitivement, une année scolaire, parce que, bon, il a triché. Mais ce qu'il faut reconnaître également, je ne pense pas qu'ils sont exclus définitivement des écoles ou bien.
Non, non, non.
Voilà, je crois que c'est quand même, c'est une année. Comme il a dit, si, par exemple, il fallait le faire avant peut-être la proclamation.
Donc, parmi les cinq, il y a un seul quand même qui est suspendu, sanctionné pour une année. Et les quatre autres pourront facilement alors s'inscrire pour cette année.
Justement. Parce que quand il disait pourquoi on a attendu proclamer les résultats avant de le faire, si on le faisait avant, peut-être que les parents pourraient dire également que non, que c'est faux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je ne pense pas que en prenant cette décision-là, les parents de ces enfants-là n'ont pas été rencontrés. Bon, je ne sais pas, mais peut-être que ça pourra être fait. Peut-être qu'on a dû rencontrer les parents de ces enfants-là pour leur expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc, je crois que quelque part, comme on l'a dit, que Godson souffre que... C'est vrai, lui-même, il a dit au début de son intervention que il ne serait pas d'accord qu'on dise que son enfant a triché au bac, qui n'est pas d'accord. Et c'est ça, il faut qu'on mette ça dans la tête de nos enfants. C'est-à-dire qu'on ne vous met pas à l'école pour que vous allez aller tricher. On a vu ce qui se passait quand on a pris cette décision, Pascal. Je ne sais pas si vous avez lu un peu sur les réseaux sociaux. C'était vraiment difficile. Certains ont dit non, que nous avons les pontes qui volent, on ne les attrape pas, et que c'est les enfants au bac qu'on attrape. D'autres ont dit non, que les enfants sont en train de marcher sur les traces des responsables. Vous voyez? Donc, ce genre de choses-là, Pascal, il ne faut pas du tout vouloir faire la
police de ce genre de choses. Mais ceci ne va pas justifier cela.
Justement, je crois que c'est des choses qu'il ne faut pas encourager. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, donnez-leur l'habitude d'apprendre à la maison. Et si l'enfant travaille, l'enfant réussit. Si l'enfant ne réussit pas, l'année prochaine, que l'enfant se mette au travail et que l'enfant puisse également passer par ce qu'il est en train de faire, apprendre et réussir. Une fois encore, moi je dis, je ne pense pas que ce soit le ministre, que ce soit les responsables de l'organisation du bac, que les gens soient contents de pouvoir prendre ce genre de sanctions. Donc, encourageons nos enfants à étudier et à réussir. C'est mieux que d'aller voler et de tricher.
C'est mieux que d'aller voler et de tricher. Oui, Gosson.
Oui, c'est pour demander. Parmi les cinq là, il n'y a qu'un seul qui a été suspendu pour l'année qui vient.
Justement, l'année prochaine.
Pour les quatre, à supposer qu'ils aient tous échoué, qu'ils n'aient pas réussi, à quoi sert alors cet arrêté? Dites-moi, l'arrêté là, à quoi ça sert pour les quatre là, s'ils avaient échoué? Ça aurait été inutile. Pascal, dis-moi si je mens.
Mais je ne suis pas à la place qu'avait
du ministre. S'ils avaient échoué, l'arrêté ne servirait à rien.
Oui.
Voilà.
Oui, mais comment le dire,
Gosson? Donc, ça a dit qu'ils ont réussi.
Oui, ils ont réussi. C'est ce que nous disons. Vous savez, ce qui s'est passé, Gosson, c'est une transparence. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une transparence. On sait qu'ils ont réussi. Mais quelque part, il y a un problème qu'il faut quand même corriger.
Mais ils ont réussi avec quelle méthode?
C'est ça.
C'est de ça qu'il s'agit.
C'est ça, Pascal.
Échouer avec quelle méthode aussi, Pascal? Parce que même s'ils avaient échoué, on devrait sanctionner le fait de tricherie. Mais où apparaît le fait d'avoir triché dans cet arrêté? S'ils avaient échoué, c'est où la sanction? Dites-moi.
C'est parce que oui, justement, ils ont triché, ils ont réussi, qu'on sanctionne on les sanctionne pour qu'ils perdent leur réussite, pour comprendre que, c'est ce que je disais au départ, qu'on ne doit pas laisser l'impression à notre jeunesse, à la génération qui vient, qu'on peut passer par toutes les méthodes pour atteindre un objectif comme ça, et ben voilà, ça va passer par perte et profit. Bon, maintenant qu'ils ont réussi, il faut les recaler, il faut les sanctionner.
Ah oui. Que la méthode utilisée n'est pas bonne.
La méthode utilisée pour réussir n'est pas bonne.
D'accord.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que, selon toi, dès qu'on les avait arrêtés, le conseil de discipline devrait se réunir immédiatement, et que, en même temps là, dans la période, on puisse leur notifier que ils ont été sanctionnés.
Et qu'ils n'iront pas jusqu'au résultat.
Voilà, ils vont échouer ou s'ils vont réussir.
Mais là, ils sauront en même temps qu'ils ont perdu l'examen.
C'est ça.
Et je comprends sur le timing, le raisonnement de Gosson. Et si les responsables, la commission d'organisation du bac, l'office du bac et jusqu'au ministère, ils sont à l'écoute, ils vont peut-être prendre note sur ce coup-là. Peut-être que c'est pour une première fois que ça fait autant de débats. Peut-être qu'il y a eu des cas, et comme il le dit, peut-être que des gens, ils ont été sanctionnés, mais échoués, ils ont repris l'année d'après, ça n'a pas eu d'effet. Donc, pour éviter que dans les années à venir, on soit dans des situations pareilles et que ça fasse encore débat, ok, une fois en juin là, que les gens, lors de l'examen, que des gens étaient arrêtés en train de tricher, que le conseil de discipline se réunisse assez rapidement, que la sanction tombe et qu'on envoie immédiatement ces candidats-là pour qu'on ne perde pas le temps pour corriger leur copie, arriver au résultat et à la proclamation des résultats, et que, bon, voilà, ils s'attendent à prendre leurs documents pour commencer à faire les démarches des inscriptions dans les universités ou autre chose, et puis patatras, un arrêté vient. Donc, je comprends le raisonnement de Gosson sur le timing, et donc les autorités doivent prendre note là-dessus.
Oui, d'accord. Je crois que, Pascal, oui, par rapport à ce que Didier disait tout à l'heure, il faudrait que nous puissions avoir la maîtrise de l'organisation peut-être du bac. Il faut qu'on puisse avoir cette maîtrise. Comment les choses se passent? Si on a cette maîtrise, je crois que si un jour le directeur de l'office du BAC peut-être pourra passer dans ce studio pour nous expliquer. Parce que, comme ce qu'il a dit, si par exemple, si les enfants ont composé, les enfants ont réussi, pourquoi attendre la proclamation des résultats et après dire que bon, vous ne passez plus dans une classe supérieure, c'est-à-dire que vous n'irez plus à l'université. Peut-être qu'il y a des clauses au niveau effectivement de l'organisation de ce bac-là qu'on ne maîtrise pas. Moi, je crois que c'est au directeur de l'office du bac peut-être de pouvoir expliquer, comme je l'ai dit, les paliers de l'organisation, de la correction, la proclamation et peut-être les réclamations. Donc peut-être qu'il y a même le volet tricherie au niveau peut-être de l'organisation de ce bac-là qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est à eux de pouvoir communiquer pour donner de la lumière aux journalistes, aux populations par rapport à l'organisation, à la proclamation. Lorsque quelqu'un triche, est-ce qu'il faut peut-être l'arrêter au niveau de la tricherie pour qu'il ne continue plus l'examen? Est-ce qu'on le laisse continuer l'examen et c'est à la proclamation des résultats qu'on le recale, ou bien c'est à la proclamation des résultats définitifs, effectivement, qu'on le recale? Donc, c'est des choses, et c'est seulement au directeur de l'office du bac de nous expliquer.
Justement, mais en attendant qu'ils viennent s'expliquer sur les textes existants, on voit que, je veux croire que c'est les textes existants qu'ils ont appliqués, mais on voit que ces textes existants appliqués laissent place à des interprétations. Une fois qu'on aura arrêté quelqu'un en flagrant délit, que dit, par exemple, le code pénal là-dessus? On prend la personne, on annule l'examen de la personne directement. C'est simple. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on applique les tests et même ce qu'on appelle la jurisprudence là-dessus. Imaginez qu'on prend quelqu'un en train de braquer une banque. On va dire, on l'attend, il va finir de braquer la banque et il ramène l'argent chez lui d'abord. C'est quand il va commencer à dépenser l'argent qu'on va venir l'arrêter. Non. Une fois qu'on le prend en flagrant délit, on l'arrête directement et puis les sanctions commencent. Donc, comme ça pose débat aujourd'hui, il vaut mieux que nos autorités, s'il y a des... C'est quand même la commission du BAC, hein, ils peuvent se réunir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent appliquer directement les tests là pour éviter que des interprétations pareilles ne continuent.
D'accord, merci beaucoup. On va quitter le sujet. Gosson, on parle maintenant de ce retard dans la formation à l'ordre du gouvernement, parce que c'est vrai, ça fait aussi l'actualité. Depuis un temps, il y a des journaux quand même qui reviennent là-dessus. On sait que la semaine dernière ou la semaine passée, il y a Monsieur Baba Stanislas qui a été même d'ailleurs nommé secrétaire général à l'ordre du gouvernement. Des journaux sont revenus là-dessus. Le journal Togo Matin écrit « Nouveau gouvernement, la fumée blanche est-elle déjà dans la cheminée ?» Et c'est une question que le journal justement se pose. Et autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est Le Correcteur. Le Correcteur qui écrit « Dilettantisme repoussant 4 mois pour retrouver un ancien ministre de EADEMA ». Gosson, par rapport à cette nomination surtout à l'ordre de Stanislas Baba, qu'est-ce que vous en pensez?
4 mois pour retrouver un ancien ministre de EADEMA, c'est comme s'il était porté disparu, soit dit en passant. Je l'assume une fois encore, la personne du nouveau secrétaire général ne me fait personnellement ni chaud ni froid, en ce sens qu'il était à la tête du MCC. Et il a fallu que les USA retirent leur participation à ce truc-là pour que, bon, aujourd'hui, on lui tende encore la perche. Malheureusement, j'ai eu un mauvais souvenir de la personne. On était à Santa Maria. On avait convoqué les médias pour parler corruption. Et avant même que les débats ne soient lancés, le monsieur nous a fait comprendre qu'on ne s'était pas réunis pour parler de la corruption au niveau de l'État. Donc, pour lui, on devrait s'attarder sur les menus fretins. Donc, si une telle personne qui a réuni le gotha de la presse se permet de planter, de mettre des barrières déjà, je veux dire, ce n'est pas lui qui va nous accorder de la liberté quand il va prendre fonction, ou alors quand nous aurons besoin de lui. Surtout ceux d'entre nous qui nous essayons en journalisme d'investigation, on aura un petit peu de problème. Au-delà de ça, nous l'avions écrit, sans être dans les secrets des dieux, qu'il faut patienter le temps que les élections au sein des mairies se fassent, qu'on connaisse ceux qui seront maires et adjoints aux maires avant que la fumée blanche n'apparaisse. Donc, quant à l'apparition
de... Mais justement, sur ce point, c'est quoi le lien?
Il y a plein de ministres qui ont participé à la campagne. Donc, on ne sera pas surpris qu'il y ait des ministres ou d'anciens ministres qui deviennent des maires. Donc, c'est comme le PCM. Moi, je dis PCM parce que c'est consacré dans la Constitution. Attends de voir ceux dont il n'aura plus besoin ou dont il va se délester avant de former sa nouvelle équipe. Mais déjà, pas le visa du secrétaire général du gouvernement, en Mina Facile, on parlera peut-être de Hoho Chouin.
D'accord. Jacques, oui, sur cette actualité aussi, il y a beaucoup d'observateurs qui disent, mais M. Baba, qui est nommé secrétaire d'un gouvernement qui n'existe pas pour le moment.
Non, ça va venir. Ça va venir. Donc, moi, je crois que, vous savez, le plus important pour nous, Pascal, c'est qu'on avance. C'est ça le plus important. C'est qu'on avance. Ça fait presque, je crois, 4 mois qu'on n'a pas de gouvernement.
Plus de 4 mois.
Plus de 4 mois. Vous savez ce que cela cause comme manque dans le fonctionnement du pays. C'est un peu difficile. On avait évoqué tantôt des sujets ici. Et nos compatriotes qui ont exécuté des travaux, qui ne sont pas toujours payés, et qui attendent. Et puis vous voyez actuellement la misère qui se lie un peu sur les visages, parce que quand ça ne tourne pas, il faut reconnaître que la machine est bloquée. Quand un maillon, effectivement, du circuit est bloqué, c'est tout le circuit qui est bloqué. Moi, je crois que la nomination, par exemple, de M. Baba au poste de secrétariat général du gouvernement, certains se disaient qu'au lendemain, il allait annoncer la formation du gouvernement. Mais autre fait marquant, c'est que, vous savez, le président de la République n'étant pas également sur le territoire, peut-être qu'on se dit qu'il faut attendre aller lui montrer également la liste des membres du gouvernement avant de pouvoir proclamer, donner les noms des ministres. Donc, il y a des paramètres souvent qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas certains paramètres. Et tout à l'heure, Gorson parlait des ministres également qui ont finalement postulé, qui ont été élus comme maires. Est-ce qu'il faut les laisser aller s'occuper de leur mairie? Est-ce qu'il faut les prendre encore dans le gouvernement? Vraiment, c'est des choses quand même que beaucoup ne maîtrisent pas. Mais le plus important, moi, ce que j'ai aimé dans cette façon de pouvoir encore reculer l'élection des maires, c'est de pouvoir effectivement permettre à ce que on puisse vraiment aider certains qui savent faire le travail. Moi, je ne voulais pas parler de l'opposition. C'est-à-dire que au niveau de nos compatriotes, il y a des gens qui ont de la potentialité, Pascal, de gérer les mairies. Il faut leur donner cette chance de le faire. Il faut leur donner cette chance. Donc, je crois que ce que le CPC a fait la fois dernière par rapport à cette requête, dont finalement, je crois que le gouvernement ou bien le président du conseil a adhéré, c'est une bonne chose.
C'est-à-dire le report à l'ordre
de l'élection des maires. Oui, c'est une bonne chose, Pascal. C'est-à-dire que ne considérons pas tout comme venant, par exemple, du parti au pouvoir de l'opposition. Pascal, là où tu es, si tu es élu maire, si tu as les compétences de pouvoir gérer une mairie, moi, je vais te soutenir, je vais t'applaudir pour t'accompagner. Si tu sens que je peux t'aider, vous voyez, la gestion, effectivement, des mairies n'a rien à faire avec les histoires politiques. C'est pourquoi on dit au Togo, il faut qu'on fasse tout pour que les années à venir, qu'on ne puisse plus lier l'élection des maires à des partis politiques. C'est-à-dire que laissons ceux qui ont la capacité, ceux qui ont effectivement les moyens de pouvoir le faire, qu'ils le fassent. On l'a vu au Sénégal, un ministre qui a quitté le gouvernement pour aller occuper son poste de maire. C'est-à-dire que ça, c'est le développement local. Au fait, quand on veut, par exemple, aller prendre encore un poste, percer un peu haut, Pascal, on commence d'abord par la base. C'est-à-dire qu'on sait gérer les mairies, après, on est député, après, on peut être ministre. Et là, parce qu'on connaît les réalités du terrain. Donc, je crois que la façon dont les choses se passent par rapport à ce côté, moi, je voudrais qu'effectivement, on puisse trouver vraiment une solution pour permettre à ceux qui ont les moyens, ceux qui connaissent, ceux qui savent gérer, ceux qui peuvent gérer, de gérer effectivement nos mairies.
Oui, mais je disais, 4 mois sans gouvernement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le PC a tellement de temps qu'il en perd aussi des fois?
Oui, moi je fais partie de ceux qui croient que pour des pays comme le nôtre, où on a tellement de défis, où il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler pour développer le pays. Il faut beaucoup travailler pour faire évoluer un certain nombre de choses. Je fais partie de l'école qui dit qu'on ne devrait pas perdre du temps. On ne devrait pas perdre autant de temps et laisser le pays au ralenti. C'est vrai, on nous dira que les membres du gouvernement vont à leur bureau, font leur travail. Mais quand on dit qu'on exécute les
tâches courantes,
mais ça a son sens. Et psychologiquement, ça également agit sur ce que les uns et les autres font. Et après, nous avons vu que dans le pays même, depuis qu'on a dit que les gens exécutent les affaires courantes, nous avons vu dans le pays un peu comme un relâchement, un peu comme si que rien ne marche dans le pays. Et donc ça, c'est clair qu'il faut justement que pour un pays qui a besoin de maximiser le temps, et Dieu seul sait combien nous avons perdu de par le passé déjà. Les gens ont dit que nous avons pris un peu de retard parce qu'on avait coupé la coopération pendant tel nombre d'années et tout ça. Le Togo a connu un peu de retard par rapport aux autres. Mais si c'est réel, on reconnaît qu'on a connu de retard par rapport aux autres, ma foi, il n'est pas intéressant qu'on perde 4 mois à ne pas former le gouvernement sans explication non plus, et que le pays soit comme ça au ralenti tout le temps. Comme Jacques le disait, qu'on a pris la nomination du secrétaire général, comme tu l'as dit, du gouvernement qui n'existe pas encore, parce que un de nos lecteurs m'avait posé la question s'il y avait, il y avait déjà un gouvernement de la 5e République. J'ai dit, mais nous avons fait notre travail de journaliste. Nous ne pouvons que dire que M. Baba est le premier secrétaire de toute façon secrétaire général du premier gouvernement de la 5e République. Nous avons fait cette précision-là pour situer. Il a dit non, dès qu'il n'y a pas de gouvernement, pourquoi on dit qu'il y a un gouvernement? Vous voyez un peu, ça fait tellement de débats, ça crée ça crée de la passion un peu partout. Donc je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus vite, parce que notre pays a besoin de se remettre rapidement au travail, parce que quand on va former, vous allez voir la période que nous traversons et le moment que nous traversons actuellement. Une fois que le gouvernement va être mis en place, vous verrez également l'atmosphère que ça créera et ce que ça donnera dans le pays. Donc, dire que les gens qui exécutent les affaires courantes sont en train de travailler, qu'il n'y a pas... Non. Les promoteurs de la 5e République avaient dit que cette 5e République-là apporterait plus de développement, plus de pays, plus de démocratie, plus de au pays. Mais si on doit perdre 4 mois à ne pas former le gouvernement, où est le développement qui est promis?
Où est le plus de?
Où est le plus que cette 5e République devrait apporter à notre pays? Et je le dis également parce que le mandat, même si les gens, bon, on pourra dire ce qu'on s'est dit, mais dans la Constitution, le mandat du PC, du président du Conseil, du chef du gouvernement, est de 6 ans. Si on doit, ça, on est en train de perdre 4 mois dans les 6 ans. Si ça finit, on prend peut-être 1 an, le temps de se remettre à travailler et que les 6 ans finissent, il va prendre d'autres 6 ans. S'il faut prendre encore 1 an dedans pour former le gouvernement, vous voyez un peu que le mandat, dans un pays, le mandat, c'est par rapport à un temps. C'est calé. Et donc, une fois que c'est calé, je crois que quand on perd une minute, on perd une journée, on a perdu de trop dans la vie d'un pays. C'est quand même pas... Un pays, c'est quand même pas une famille. C'est quand même pas nous. Je vais dire, OK, pour ma famille, je prends assez de temps, je réfléchis à tel paramètre et tout. Non. Mais un pays a besoin qu'on aille un peu plus vite, dans la lucidité, mais un peu plus vite. Je crois que les gens me diront, non, le PC veut être lucide, il veut faire les choses bien, et tout ça. Mais en même temps, l'impératif de temps aussi compte.
D'accord, l'impératif de temps aussi compte.
Je ne sais pas si vous avez un peu analysé, depuis que M. Faure Gnassingbé a accédé au pouvoir, c'est pas prenez un temps, Asseyez-vous pour analyser un peu la composition des gouvernements, ou plutôt. Vous allez voir. Elle dit que l'équation la plus difficile que M. Faure Gnassingbé arrive à résoudre souvent, c'est la formation du gouvernement. Prenez le temps. C'est-à-dire que analysez les premiers ministres qui sont venus. Vous allez voir le nombre de mois, de temps que cela a pris pour qu'on puisse former des gouvernements. Donc je me dis que c'est une occasion souvent difficile. Je ne sais pas si M. le Président ne veut pas souvent se séparer de certains. Qu'est-ce qui se passe? Et au finish,
ça prend du temps. Mais comment se dit déjà, quand on termine peut-être
oui, c'est pourquoi je dis que c'est une équation
difficile pour lui.
Dit que, bon, je crois que c'est les historiens. Peut-être que c'est un cas d'école, hein, pour toi. Peut-être que quelqu'un peut écrire.
Mais puisque nous avons vu ça au Gabon, oui, c'est juste après la proclamation des résultats.
Vous allez voir que c'est une équation.
Le gouvernement a été formé. Oui.
Prenez le cas de Mme Dobé, quand elle était nommée Premier ministre. Vous avez vu le temps que ça a pris avant qu'elle ne forme son gouvernement?
Un mois,
oui. Oui, ça a pris un mois. Maintenant, on change de constitution. Vous voyez le nombre de temps également que ça prend avant qu'on ne...
4 mois.
Je crois que le problème dans cette affaire, il faut, comme je l'ai dit, c'est un cas qu'il faut étudier pour voir ce qui se passe.
Ok, merci. Je voudrais qu'on dise un mot sur la prestation des éperviers le vendredi dernier pour ce qui concerne le match Togo-Mauritanie. Et justement, le site d'information Republic of Togo s'est écrit ce matin, éliminatoire mondial 2026. Le Togo s'incline 2-0 face à la Mauritanie. Les éperviers du Togo ont connu une nouvelle soirée difficile vendredi en s'inclinant 2-0 face à la Mauritanie lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je ne sais pas, Gosson, vous avez suivi le match?
Moi? Je te disais que mon week-end était rempli. J'avais moi-même à jouer de match. Je veux éviter l'AVC. Donc, je reste éloigné quand les éperviers jouent. Nous avons des oiseaux sans ailes. Comment vous voulez qu'ils volent? Comment vous voulez qu'ils volent? Ils n'ont pas d'ailes.
Ils n'ont pas d'ailes comment? Jacques, pour la prestation des éperviers.
Mais Pascal, en toute honnêteté, il faut revoir notre football, la politique du football au Togo. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays par rapport aux disciplines? Ce n'est pas seulement au niveau du foot, hein. Toutes les disciplines, qu'est-ce que nous voulons? À tête reposée, il faut qu'on réfléchisse. J'ai vu le jeu de Madagascar, j'étais étonné. Avec le champ qui est passé, où le Maroc a remporté la Coupe. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la finale. Vous serez étonné. Non, c'est-à-dire que c'est une politique. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous mettons effectivement dans le football? Il ne suffit pas seulement d'organiser les journées de sport et ça s'arrête là, que la TVT vienne filmer. Non, c'est pas ça. D'accord. Quelle politique nous avons pour notre football?
D'accord, oui, c'est vrai que le sélectionneur Nibobé Daré a justifié aussi cette défaite par rapport aux conditions dans lesquelles le match a été joué. Mais est-ce que vous avez été convaincu?
Nous avons titré vendredi sur ce match-là que Nibobé Daré et les éperviers du Togo n'y arrivent pas. On peut dire même que la Fédération togolaise de football, Nibombé Daré et les éperviers du Togo n'y arrivent pas. Vous voyez une fédération qui n'a pas de résultats au niveau national depuis 2015-2016. L'équipe qui est là n'a pas de résultats. Et on va me dire qu'on a organisé le championnat. Ça va s'arrêter là. Le championnat togolais à quelle côte? Dans la sous-région et en Afrique aujourd'hui.
Quel financement?
Et les éperviers sont la vitrine quand même du football togolais. Et si les éperviers n'arrivent pas à avoir de résultats depuis 2015 jusqu'à ce jour,
10 ans
sans résultats pour une équipe nationale,
il faut
quand même que quelqu'un tape du poing sur la table. Nous sommes quand même dans une république. Si on va continuer à faire dans le contentement avec un certain nombre de personnes, je crois que et cette joie-là que les éperviers nous procuraient, d'ailleurs même ça n'existe plus, mais ça va continuer encore. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Il faut qu'on rase. Il faut véritablement qu'on rase tout ce qu'il y a là, au niveau de la fédération, jusqu'au niveau de la sélection, pour qu'on commence à reconstruire les IPR, à reconstruire même la fédération, pas en termes de bâtiments, parce que les bâtiments existent déjà, mais en termes de structure, pour voir qu'est-ce qu'on veut véritablement faire. On refonde le football togolais et on refonde l'équipe nationale avec peut-être, je ne sais pas, on va pas chasser tout le monde, mais il faut quand même que on réfléchisse à quelque chose d'autre, parce que ils ont encore un match demain. C'est probablement perdu ou match nul au mieux des cas. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est l'argent public, ton argent, mon argent, l'argent de celui qui est en train de nous écouter là, qui est utilisé pour faire ça. Et on ne peut pas être dans le gaspillage pour plus de 10 ans.
D'accord.
Il faut quand même qu'on réfléchisse.
D'accord,
à
merci beaucoup, chers confrères. On va donner la parole à nos auditeurs. Vous savez que c'est le principe alors de l'émission.
Pascal, bien sûr. Oui. Le jour qu'on va cesser de transporter nos joueurs dans les tricycles, vous allez voir que ça va avancer.
Mais est-ce que ça existe aussi, Jacques?
Les tricycles.
Des joueurs dans les tricycles.
Je ne pense pas, Jacques.
Je ne pense pas. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Nous allons donner la parole, bien sûr, à nos auditeurs sur ces deux numéros et aussi sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 3.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Didier, bonjour Jacques, bonjour Agostin.
Comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom c'est?
C'est Stan.
Ah Stan. Vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle de la préfecture de Bamoun, plus précisément à Fania.
Ah, Fania, d'accord. Allez-y, Stan.
Je remercie les confrères au studio. Quand je dis les confrères, je suis du site African Legal PG.
D'accord.
Au fait, quand on parle de l'ascension des candidats à l'examen, je crois que ça a servi quand même de leçon à nos chers élèves. Puisqu'aujourd'hui, les élèves ne donnent plus de considération premièrement aux enseignants. Puisque la preuve est qu'il y a un candidat qui a menacé un citoyen. Donc je crois fondamentalement que c'est une leçon. Puisque nos élèves, quand vous enseignez en classe, il y a des élèves qui pensent que même si on ne fait pas d'efforts, on va réussir à l'examen. Je suis également enseignant, c'est pourquoi je le dis. Il y a un jour, il y a un élève qui a posé un acte que j'ai fait sortir, c'est-à-dire j'ai décidé qu'il aille appeler les parents. L'élève s'est permis de nous poser la question, est-ce que c'est moi qui lui paye le collage? Voilà. Donc je crois que c'est une leçon. Mais une autre chose, et à ce niveau, je félicite le confrère du Boston, l'ascension devait arriver un peu plus tôt. Parce qu'on ne peut pas attendre proclamer les résultats d'abord avant de sortir une telle sanction. Et ce n'est pas bien. Bon, maintenant, je vais rebondir aussi sur la formation du gouvernement. Aujourd'hui, on a l'impression que le président, le PC, c'est comme il se dit qu'il a le rapport de force qui est en sa faveur, donc il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. Sinon, dans un pays normal, on ne peut pas traîner la formation d'un gouvernement. Quand on parle de la gestion des affaires courantes, là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai jamais compris cette expression. Donc, je crois fondamentalement que nous devons savoir que quand on est un ministre, on est un président, on est un serviteur du peuple.
D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stan,
oui?
Est-ce que vous êtes intéressé par le match de demain?
Non, au fait, à un moment donné, le football togolais ne m'intéresse plus. Parce qu'on a l'impression que depuis le sommet de l'État, le football n'est plus l'affaire de nos dirigeants. Regardez comment les éperviers ont joué la fois passée. Même les enfants qui jouent du citron dans les quartiers, excusez-moi, ils valent mieux que ce que les éperviers ont fait la fois passée.
Oui, Stan, je vous pose la question parce que je voudrais vous offrir deux tickets pour le match.
Lequel? De demain?
Oui, de demain.
Bon, en fait, Je ne sais pas dans quel sens vous voulez mon priorité,
mais moi, justement, c'est...
En fait, je n'ai plus envie de suivre le match.
D'accord,
de
ok, ce qui est sur vous êtes,
à la
oui.
Télé,
oui.
Je ne capte plus ma
télé. D'accord, d'accord, merci beaucoup, Stade. 90, 86, 35, 35. Allô
Pascal, bonjour.
Bonjour, Basile.
Je suis en déplacement sur TV, donc... Je ne capte pas bien, mais je vais essayer.
D'accord.
Je salue les autres en studio.
Oui.
Non, pour le problème du PCM et de ses prérogatives de pouvoir former ou non un gouvernement, moi je vous dis qu'il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Tout ce qu'il cherchait en 2025, c'est comment être là. Comment être là, c'est d'avoir fait cette. Je ne sais pas comment on peut dire ça, que constitution de quoi, et qu'il est le président de quel parti, qui a quoi, et donc, et puis il demeure de fait celui qui va continuer par nous régenter. C'est tout le problème. Pour le reste, il va former un gouvernement. Il forme le gouvernement pour vous faire quoi? Est-ce qu'il veut votre bien? Lui n'a jamais voulu votre bien. Si ce n'est pas pour lui, ce bien que lui veut. Lui n'a jamais voulu. Je ne sais pas pourquoi les gens celui qu'on dit qu'on a nommé secrétaire général, ce n'est pas ceux-là à la conférence qu'on avait vu. Mais c'est lui qu'on va nommer aujourd'hui. Et on ne nomme personne, on le nomme lui seul. Vous voyez comment est-ce qu'on est dans l'amateurisme notoire et personne ne peut dire quelque chose et on dit qu'il y a les militaires, les gendarmes, les policiers qui vont sortir.
D'accord, merci Basile. Basile ? Allô, il est parti, 90, 86, 35, 35, allô ? Allô, bonjour, allô. Oui, allô, bonjour. Allô ?
Allô ?
Allô, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour. Voilà, on va recevoir notre auditeur 90 86 35 35 91 36 63 115. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien.
C'est Johannes.
Oui.
D'accord, allez-y.
Concernant le problème israélo-palestinien, moi je dis Israël est. En fait, Israël, c'est une nuisance pour le monde actuel. L'État d'Israël, c'est une nuisance. C'est un État... c'est un problème en cet État même, c'est un problème. Et puis, c'est ceux qui ne maîtrisent pas réellement ce qui se passe au quotidien de ces deux États qui peuvent parler de l'événement du 7 octobre comme déclencheur de ce qui se passe actuellement. Il n'en est rien. C'est juste que le 7 octobre, c'est le jour-là que... C'est-à-dire, c'est comme la réponse d'un pauvre... C'est la réponse d'un pauvre à l'agression quotidienne d'un riche. Donc le jour où le pauvre arrive à répondre de façon proportionnelle, on pense qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, qui mérite une réponse extraordinaire. Mais c'est juste que avant, le pauvre n'arrivait pas à répondre comme il le fallait. Je vous dis que au quotidien, vous savez, entre les deux États, il y a des choses qui se passent comme ce qui se passe actuellement au Togo, où on a des nomades, c'est-à-dire des peuls qui viennent faire la loi dans les champs des autochtones. C'est exactement ce qui se passe entre ces deux États-là. On a des colons, c'est des civils israéliens qui chaque jour se lèvent pour aller chasser des Palestiniens de leur terre, de leur maison. Parce qu'ils ont des armes, ils ont la force derrière eux. Au quotidien, on chasse les Palestiniens de leur terre. Et on veut que ces personnes ne réagissent pas. Donc, les 7 octobre, c'était juste une réponse.
D'accord.
Mon deuxième point.
Oui, rapidement.
Concernant cette affaire des armées, moi, je ne vois pas pourquoi on veut faire de l'hypocrisie dans cette affaire. Comment est-ce qu'on peut prendre un élève en faisant de l'hypocrisie et on arrive jusqu'à copier et corriger sa copie? C'est-à-dire la copie dans laquelle il a triché, on arrive jusqu'à corriger cette copie et on dit qu'il a réussi. C'est par quelle magie? Et je ne vois pas pourquoi on veut défendre ça pour dire, bon, peut-être on voulait voir les parents pour négocier avec les parents. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette analyse que je ne comprends pas? En franchant délire, c'est-à-dire, on te sort de la salle, en même temps, tu ne figures même plus dans la liste de ceux qui ont composé. Donc, c'est juste que là, le ministre a fauté quelque part. Il y a eu un manquement quelque part. Donc c'est ça.
D'accord, merci. Voilà. Oui, merci, merci, Johannes. Johannes. Allô? Ah, il est parti aussi, 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
S'il vous plaît, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit, diminuez son volume, oui. Votre nom, c'est?
Grégoire, depuis Logopé.
Pardon?
Grégoire.
Grégoire, depuis Logopé. Oui. Grégoire, voudrez-vous parler un peu plus fort?
Pardon?
Et s'il vous plaît, parler un peu plus fort.
Ah, je disais. Hein?
Oui.
Bon, surtout moi, j'aimerais dire, les Basiles ont déjà dit ça. Oui, entre temps, j'ai voulu rappeler à lui pour vous poser là, une question, vous qui êtes là-bas. Entre temps, le président avait dit que la jeunesse africaine ne réagit pas, disons, ne réfléchit pas avant d'agir. Vous êtes jeunes aussi, tous les confrères. Monsieur Jacques, tout ça là. Qu'est-ce que vous pensez de ça là? Ça, c'est un. À propos de ce qu'on dit maintenant, que les élèves ont triché et puis on a laissé jusqu'à proclamer d'abord. Faut-il dire maintenant que les ministres travaillent mieux que le président? Parce que eux, le président, lui, il laisse les gens, il laisse la minorité, qui accapare les ressources du pays. Il ne les prend pas. Le ministre, maintenant, quand les élèves ont triché, lui, il est bon, il les sanctionne maintenant. Si j'en ai ainsi, ce que moi je veux, donc il faudrait maintenant que la prochaine, comme il n'y a même plus d'élection, on prend ce ministre-là comme président de la République. Comme lui, au moins, lui, il va sanctionner les gens qui prennent nos sous-là, ils vont nous ramener ça comme ça, c'est mieux.
Merci beaucoup, Grégoire, pour votre intervention. Grégoire? Il est parti aussi, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? 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 Allô, bonjour? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Monsieur Kofi.
C'est Monsieur Kofi.
Oui.
Oui, Monsieur Kofi, allez-y.
Oui, avant d'aller sur l'affaire des élèves, j'aimerais demander au ministre, lorsqu'il entend des établissements, surtout des BTS et autres là, dire qu'ils ont eu 100% aux examens, est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'il a déjà une fois cherché à voir le fond de cela? Est-ce que ça s'entend bien là? Même les parents aussi là, quand ils entendent ça, que oui, dans cet établissement, il y a eu 100% de réussite à l'examen. Ses parents sont fiers d'eux-mêmes, cherchent-ils à savoir, à voir le fond même. Ces histoires de fuite et des épreuves, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si déjà, dans une école de BTS, on me sort qu'il y a eu 100% de réussite.
Oui, vous avez déjà parlé de cela, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur les sujets.
Et pour les élèves, là, en temps normal, lorsque tu es surpris en flagrant délit, on te sort de la salle en même temps. Le fait d'attendre, de corriger, comptabiliser, tout, proclamer, et après venir nous dire que oui, voilà, il y a tel et tel qui ont triché, et jusqu'à ce qu'on nous dit qu'on a agressé et un enseignant, et déjà, ça ne sonne même pas bien. En plus, les enseignants, vous vous confondez aux élèves. Vous vous attendez à quoi? Enseignants qui se confondent au corps d'élèves.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Vous avez été relativement long hein, sur le coup. Michel, je ne sais pas si nous avons encore quelques minutes pour vous recevoir le dernier auditeur. Oui, voilà. Michel qui me fait savoir que le Kofi, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Il y a quelques réactions quand même hein, sur notre plateforme WhatsApp où Monsieur T. Kossi qui écrit hein, « Bonjour Pascal, même les morts, c'est-à-dire M.A. K-U-R-E-S, gagne les éperviers qui sont vivants. C'est justement sa réaction. 80, un autre auditeur qui nous écrit. Bonjour le plateau, je voudrais passer par ce canal ce matin pour sensibiliser la jeunesse togolaise au respect des aînés en demandant à tous les éducateurs et enseignants d'insister sur cette problématique à la reprise des classes en insistant sur les valeurs citoyennes qu'il faut cultiver. Sinon, notre société court vers une dérive qui ne sera profitable à personne. C'est Adé qui nous écrit depuis Adakwame. Et nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table. 5 auditeurs nous ont appelés. Il y a Stan, Basile, Johannes, Grégoire et Kofi. Et nous les avons tous écoutés. Mais je demandais même la question à Stan tout au début s'il est intéressé par le match de demain. Ce qui est sûr, j'offre. Il y a Djama Pisner qui offre 2 tickets à chacun de ses auditeurs qui ont appelé et pour le match alors de demain. Je ne sais pas comment Stan a depuis Afania fera pour recevoir cela, mais ce qui est sûr, vous avez votre ticket chez nous. Et oui, Jacques, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction?
Non, je crois que parlant par exemple du bac annulé par certains, je crois que comme on l'a dit, il faut nécessairement souvent que Togolais que nous sommes, c'est vrai que nous ne maîtrisons pas tout, nous n'avons pas la science infuse, et ça c'est vrai, mais il est important que quand même on puisse expliquer souvent. Quelqu'un a dit sur une plateforme tout à l'heure que j'ai lu que lorsque par exemple à chaque épreuve on explique toujours aux élèves ce qu'il faut faire, ce qu'il ne peut pas faire, quand vous trichez et tout, on essaie d'expliquer aux élèves, c'est ce que quelqu'un a dit. Mais le plus important, comme on l'a dit, vous savez, c'est une chaîne, l'organisation du bac, il faudrait que le directeur de l'office du bac puisse expliquer, hein, cette organisation et demander une fois encore à nos enfants aussi de ne pas tricher lorsqu'ils sont effectivement dans les classes d'examen. Il ne faut pas qu'ils trichent parce que quand ils le font, on expose leur nom et leurs parents comme ça sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas bien.
D'accord.
Parlant de la formation du gouvernement, comme les uns et les autres l'ont dit, ça c'est le secret du PC. Donc comme on l'a dit, il faudrait que notre pays avance, Pascal. On a trop traîné. Prenons le temps d'avancer, de rattraper le retard sur certains sujets.
D'accord, Dizzy.
Oui, sur la formation du gouvernement aussi, je précise que moi, je me tiens toujours aux exposés des motifs, à tout ce que les gens nous avaient promis. Ils nous avaient dit qu'ils pourraient beaucoup plus de flexibilité dans le fonctionnement de la République. C'est pour ça qu'il fallait, il fallait pas un fusible entre le reste de l'équipe et le PC. Et donc, c'est pour ça que les choses sont en train de traîner. Imaginez l'Assemblée nationale qui a consacré, donc qui a désigné le PC. L'Assemblée, lui, l'a déjà fait plus d'un an et demi. Hein. Vous souvenez-vous, les gens n'en pensent pas. Mais l'Assemblée avait été élue en 2024 et ils ont fait déjà un an et demi. Le PC a été désigné, ça fait déjà plus de 4 mois, on en parle. Et donc, les choses traînent. Les choses traînent parce que s'il faut prendre tout le temps, finalement, rien ne se fera. Donc, il vaut mieux que le PC use de son pouvoir discrétionnaire et qu'il se fasse un peu de violence sur sa patience, parce que un pays qui s'impatiente trop, finalement, trop de patience va tuer la patience. Il faut que le pays redécolle, il faut que les choses redémarrent dans le pays. Et donc, si le PC nous écoute et voudra user de son pouvoir discrétionnaire pour sortir le gouvernement très rapidement, et ça va marcher. À moins qu'il soit dans la logique de ce que Gosson a dit, qu'on attende l'élection des maires et leurs agents cette semaine avant de penser à la formation du gouvernement.
Et c'est
sur ce coup-là aussi que les gens du CPC, c'est ça, ont demandé qu'on puisse faire une mixture lors de l'élection. Finalement, ça ne va plus être une élection. Je suis tenté de rejoindre Gosson, hein, qui a l'habitude de dire qu'on aurait dû nommer les gens là. Si on a fait l'élection et qu'on sait que UNIR va prendre pratiquement à peu près 110 mairies sur les 117, et que il suffit qu'on fasse un appel au sein du CPC, que des gens se décident à vouloir faire une mixture.
Merci beaucoup, Didier. Didier, merci, Gosson.
Par cette décision, quand bien même elle est très contestable, du ministre de la Recherche au sujet des enfants qui ont triché, là on parle de flagrant délit, je suis conforté dans ma profession qui voudrait que nous jouions au mieux notre rôle de quatrième pouvoir, c'est-à-dire mieux ouvrir nos yeux pour traquer les adultes, là on parle des élèves,
d'accord,
les adultes qui se rendent coupables de tricherie ou de corruption.
D'accord, merci beaucoup, cher confrère. Oui, Jacques, entre-temps, vous parlez des disciplines, hein, de nos disciplines, où vous parlez des problèmes, justement, de ces différentes disciplines. Il y a quand même quelqu'un qui nous écrit que, hello Pascal, le beat volé fait quand même honneur, hein, au Togo, hein, pour la première fois. Le beach volley togolais est qualifié pour le championnat du monde prévu en novembre en Australie. Et donc ça au moins, ça fait l'honneur justement du pays. Et le beach volley, bien sûr, hein, qui fait l'honneur du pays. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. Cher confrère Jacques, merci, hein, d'être passé. Didier Assoba, merci d'être passé aussi dans cette émission. Gosson Ketomania, merci d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis aussi pour... merci, hein, à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions ce débat. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.